bienvenue dans le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazerolle, ostéopathe à Montréal, et dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre de sportifs, d'athlètes et de spécialistes de leur domaine. Pour mieux comprendre la mécanique du corps et de l'esprit, pour vous aider à être plus performant au quotidien, et surtout en meilleure santé.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bon, boum, c'est parti. Bonjour, bienvenue à tous, podcast biomécanique parfait avec Alex de Olympfit. On connaît pas ton nom hein, de famille, hein. tu l'as pas mentionné.
Alors, mon prénom c'est Alexandre, mon nom c'est Jeannot.
Ok. Bonjour à toi, ça fait plaisir, je suis content de te recevoir ici sur le podcast. Tu m'as été un petit peu recommandé par quelques auditeurs, comme je t'avais dit. On a eu le temps de discuter, de s'appeler, de faire un peu le point sur les sujets dont on allait discuter aujourd'hui. Donc c'est cool, tu as une approche qui est beaucoup plus biomécanique que ce qu'on voit de plus en plus, hein, j'ai l'impression. Alors ça va bien avec le titre du podcast, même si bon, les auditeurs, les fidèles savent que maintenant on parle beaucoup moins de... on parle quasiment plus de biomécanique en soi. On va chercher dans d'autres sujets. Mais c'est ça qui est pas mal, c'est que... Alors, quand on s'est eu au téléphone la dernière fois, tu m'avais dit que finalement, tu étais vachement éloigné de tout ce qui se faisait sur le fitness, sur la muscu, sur le côté francophone, et que finalement, tu avais très peu d'idées des tendances sur le fitness actuel.
Oui, tout à fait. Si tu veux, moi, je me suis... tu as employé le terme éloigné. En fait, j'étais jamais dedans. Hein. Si tu veux, moi, quand j'ai fait mes études de STAPS, donc moi, j'ai un parcours STAPS, hein, licence, master... Et pendant ce parcours-là, donc moi j'ai fait mes études, c'était dans les années entre 2017-2010, le parcours STAPS. Et du coup, à cette époque-là, si tu veux, il n'y avait vraiment pas grand-chose hein, dans le domaine francophone, dans la préparation physique, on était vraiment à la bourre hein, dans le domaine. Comparé à ce qui se faisait dans les pays anglo-saxons. Et vu que, alors après, voilà, j'ai eu la chance d'être bilingue, de pouvoir parler anglais, de comprendre l'anglais. Et donc, j'ai toujours fait mes recherches sur les sites anglophones. D'accord ? À l'époque, pour ceux qui, pour les plus vieux, je pense, qui connaissent, et puis ceux qui s'intéressaient aussi un peu à la littérature anglophone, il y avait le site T-Nation. Donc, c'était un peu, le site incontournable de la muscu et des sports de force à l'époque. Avec des gens comme, par exemple, Christian Thibodeau, qui était aussi très connu à l'époque, avec Paulie Quinn aussi. Charles Paulie Quinn. Christian Thibodeau, oui, c'est sûr qu'il est toujours présent. Mais après, si tu veux, il y a beaucoup de gens autour qui ont aussi... pris de la notoriété et qui sont plus sérieux d'un point de vue scientifique, si tu veux.
Ah, tu le trouves... Tu trouves...
Bah, si tu veux...
Pas sérieux ?
C'est pas qu'il est pas sérieux, c'est que Christian Thibodeau, c'est principalement un athlète. C'est un préparateur physique, c'est quelqu'un qui est vraiment du terrain et qui il a très peu de bagages académiques comparé, par exemple, à Greg Knuckles ou à Eric Helms, je sais pas si tu les connais. Donc, ce sont des gens qui sont aussi compétiteurs, bien sûr, qui ont un bagage sportif qui est impressionnant, mais qui sont aussi chercheurs. Donc, ils ont fait des études supérieures avec un master, avec un PhD derrière, donc un doctorant, et qui sont aujourd'hui qui ont leur propre laboratoire, comme Brett Schoenfeld, par exemple, ou alors qui travaillent en tant que chercheurs dans une institut ou une université. Donc, ce sont des gens qui... académiquement parlant, je pense qu'ils ont un bagage qui est plus étoffé, plus développé que le bagage académique de Christian Thibodeau.
Christian Thibodeau, avec qui j'ai échangé plusieurs fois des messages. Alors, je devais avoir un podcast que je devais faire avec lui. C'était, je pense, il y a peut-être 6 mois, enfin un peu plus que ça d'ailleurs.
C'était en fin 2021.
Oui, c'était prévu. Il a eu une couille parce qu'il était malade le jour où on devait enregistrer. Donc, on s'est dit qu'on se reprendrait. Et puis bon, le temps a un peu passé. Et puis, on a rééchangé des messages il y a quelques temps. Sauf qu'il est assez. Il a peu de disponibilité. Les seules disponibilités qu'il a en termes d'horaire et de jour sont les horaires où je peux pas. Celles où je peux, ce sont à 5 heures du matin et sur des horaires sur des journées qui m'arrangent pas du tout.
Parce que ça serait quand même une très belle contribution pour la communauté. Christian Thibodeau, il a beaucoup de choses intéressantes à échanger et à partager, c'est sûr.
Exactement, je suis assez d'accord et c'est vrai que je veux le recevoir depuis longtemps, mais en plus c'est vrai qu'il m'avait proposé, il m'avait dit tiens, je peux, là j'ai ces horaires là pendant mon cardio, et c'est vrai que moi j'aime pas trop faire les podcasts avec quelqu'un qui fait le cardio en face. C'est alors après, où c'est qu'il faut se placer, c'est toujours est-ce qu'il faut que j'accepte les conditions de l'invité pour le recevoir, ou alors est-ce qu'il faut que je respecte minimum quand même mon truc pour pas avoir quelqu'un qui fait du vélo en face de moi lorsqu'on fait un podcast. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Il y en a qui le font, moi je suis pas très chaud, mais je lui dis alors on a discuté, je lui dis je te reviens à la rentrée, je verrai. Voilà, il m'a donné un peu ses conditions et puis on verra. Mais enfin bon, bref. Ok, bon, alors on voit que t'as quand même ce parcours académique, et t'aimes bien la science finalement.
Tout à fait. Pour revenir un peu à la question de base, donc c'était à la base, tu vois, moi quand j'ai fait mes études, j'étais pas vraiment dans le fit game. À la base, bon, déjà, il n'y avait pas grand-chose. Hein. C'était vraiment très, très restreint au niveau français. Et puis, j'ai directement très vite pris l'habitude d'aller chercher l'information chez les anglophones. Donc voilà, je ne me suis pas vraiment éloigné. Été dedans, hein, déjà, à la base.
Tu dis qu'au début, il y avait une espèce de retard. Est-ce qu'aujourd'hui, ce retard, il est comblé en francophonie ou il y a toujours un train de retard, selon toi ?
Non, il n'est pas encore comblé. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Et il y a beaucoup de gens qui rendent l'information anglo-saxonne disponible en langue française. Je pense notamment à Fortrainer. C'est les éditions Fortrainer, donc ils reprennent un peu des ouvrages un peu phares, hein, de la littérature anglo-saxonne, ils les traduisent et ils les rendent disponibles un peu au public francophone. Donc c'est sûr qu'on est en train de s'améliorer, mais je pense que c'est sûr que si tu veux les avancées dans le domaine, bah ce n'est pas les Français qui vont les faire, hein, d'accord. Les avancées dans le domaine, ça va toujours être les Américains, parce qu'ils ont beaucoup plus de budget dans le domaine, tout simplement. Ici en France, on est grave à la bourre, hein. Donc on va toujours être en train d'essayer de rattraper un peu ce qui se fait aux States. Alors c'est sûr, aujourd'hui c'est mieux que ce que c'était dans les années, à la fin de la première décennie des années 2000.
Ok. Alors on a sauté un petit peu vite. C'est vrai, comme d'habitude, j'ai un peu parlé de ce qu'on a discuté dans ce podcast un peu, et puis hop, et puis on avance comme ça. Je vais quand même te poser la traditionnelle question, même si on a un petit peu saisi. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te découvrent, qui ne te connaissent pas, bon, t'as quand même une chaîne YouTube fournie, mais comme tu disais que tu ne fais pas partie du fit game entre guillemets, tes vidéos sont très académiques. Et peut-être ceux qui picorent un peu qui laissent faire l'algorithme, peut-être qu'ils n'ont pas vu vu d'où tu venais, qui tu étais. Donc comment tu te présenterais à eux, qu'est-ce que tu dirais de toi?
Alors moi, si tu veux, donc j'ai fait un parcours à la base, si tu veux, je ne suis pas du tout du domaine du sport, hein. Donc moi, quand j'ai commencé mes études, j'ai fait un bac S et ensuite j'ai fait des études d'ingénieur, hein. Donc j'ai fait 5 ans d'études pour être ingénieur en télécom. Et c'est à la fin de ces années, de ces 5 ans d'études, que je me suis rendu compte que j'ai pas envie de vivre le quotidien professionnel que m'imposait le travail d'ingénieur, c'est-à-dire être devant un écran pendant 8 heures par jour, avec très peu de relations humaines, et puis surtout ne pas vivre pleinement ma passion, donc, le sport. Et donc j'ai décidé de directement changer de domaine de professionnel et d'essayer de faire de ma passion mon métier, tu vois. Donc j'ai repris les études et c'est comme ça que j'ai intégré une licence STAPS et ensuite j'ai fait un master STAPS pour être préparateur physique, donc spécialisé dans les sports de force. Ensuite, donc un peu plus tard dans ma carrière, j'ai eu donc beaucoup de demandes, si tu veux, pendant que j'étais en train de travailler en tant que préparateur physique et en tant que coach personnel, j'ai eu beaucoup de demandes concernant la nutrition. Donc j'avais beaucoup de gens qui me demandent aussi, Alex, est-ce que tu peux nous donner des conseils en nutrition, nanani. Et j'ai toujours, si tu veux, apprécié l'importance de une bonne hygiène alimentaire dans la performance. Hein. Donc les deux sont liés. On peut pas faire l'un, on peut pas performer pleinement et optimiser sa performance si on n'a pas les trois piliers hein, de la bonne santé, qui sont bien sûr l'entraînement, l'alimentation, la nutrition, le deuxième pilier, le troisième c'est la récupération. Donc il me fallait quand même, si tu veux, je me suis dit, il me faut être compétent aussi dans ce deuxième domaine qui est l'alimentation, qui m'intéressait aussi beaucoup. Et en STAPS, malheureusement, mon licence ou mon master, on a très peu de cours, hein, c'est très sommaire. On nous parle de nutrition, mais c'est rien de très glorieux. Donc du coup, je me suis dit, il faut absolument que je puisse être aussi compétent dans ce domaine. Et j'ai repris les études, j'ai passé le BTS diététique, donc sur 2 ans. Donc aujourd'hui, j'ai un peu les deux casquettes, si tu veux. Je suis préparateur physique et aussi diététicien. Ensuite, en parallèle, donc avec mes études de quand j'ai repris BTS diététique, je l'ai repris beaucoup plus tard. Hein. J'ai commencé BTS diététique, je pense que c'était en 2015, hein, alors que j'ai fini mes études en STAPS en 2009, hein, donc 6 ans plus tard. Et à la base, quand je me suis lancé sur YouTube, donc pour ceux qui savent pas, j'ai une chaîne YouTube au nom de Olympfit. Le but de la chaîne, c'est de transmettre un peu mes connaissances dans le domaine de la préparation physique et de la nutrition à tous les gens qui sont passionnés du sport, et aussi aux coachs sportifs qui travaillent dans le domaine de la musculation et qui ont besoin d'approfondir un peu plus leurs connaissances. Donc à la base,
pourquoi Olympfit?
Ouais, Olympfit.
Excuse-moi, je t'ai coupé. Olympfit.
Il n'y a pas de souci, c'est une bonne question. Olympe fait référence au mont Olympe, donc le mont Olympe, là où vivent la résidence des dieux, hein, les dieux grecs, qui sont connus bien sûr pour leurs conditions athlétiques et pour leur physique de culturisme hors norme. Donc voilà, Olympe, ça vient de là, ça fait référence un peu à l'olympisme d'un point de vue mythologie grecque, et puis fit, ben, pour la bonne condition physique. Quoi, fit, c'est quelqu'un de fit, c'est quelqu'un qui a une bonne condition physique générale. Donc voici Olympfit.
Ok, bon, voilà, comme ça on connaît l'origine. Donc ouais, donc t'as ces plusieurs casquettes. Attends, est-ce que t'es en train de me dire que on peut pas s'entraîner et manger n'importe quoi et que justement on peut s'entraîner et faire du sport pour s'autoriser à manger n'importe quoi? T'es en train de me dire ça, Alex?
Tu peux, si tu veux, faire du sport pour essayer de non, c'est très bien, ça me fait rire bien sûr, et puis c'est rigolo parce
que je sais
quelque chose qui revient souvent aussi, oui, mais je fais du sport, bon, maintenant je me donne le droit d'aller bouffer un Big Mac ou d'aller descendre 3 pintes de bière ou quoi. Après, quand j'ai dit que l'alimentation est importante dans le sport, j'ai employé le terme optimisation. Donc pour optimiser la performance, il faut optimiser l'alimentation. Après, on peut très bien sûr, faire du sport et manger n'importe quoi. On aura, bien sûr, des résultats, mais qui ne seront pas optimisés. Voilà. Et c'est dommage, parce que si on optimise l'alimentation, on aura de meilleurs résultats.
Bien sûr. Et comment on fait aujourd'hui, selon toi, puisque c'est aussi un de tes mantras, tu vas me dire, comment on s'entraîne plus intelligemment? Comment on évite de faire des conneries? Alors, j'ai l'impression que le milieu, alors tu ne le sais pas, force, peut-être parce que tu n'es pas dans le milieu du fit game, on va dire, ou tu regardes pas trop ce qui se fait. Je suis pas le seul à dire ça. Je veux dire, je l'ai pas inventé, mais il y a beaucoup, il y a eu une vague de fitness avec les acteurs qu'on connaît, dont de nombreux que j'ai déjà reçus ici sur le podcast. Voilà, je pense à Rudy, je pense à Enzo, je pense à alors From Human to God aussi, mais je l'ai pas reçu, à Thibaut Inchep, évidemment que j'ai pas reçu encore. Je dis encore parce que j'espère l'avoir un jour, ça pourrait être cool. Alors il y a eu toute cette vague, et puis depuis, je sais pas, 5 ans, alors peut-être après le Covid, j'en sais rien, si c'est ça, il y a eu un espèce de ralentissement sur et puis alors maintenant il y a de nouveau qui est close, je sais pas comment on dit, dans le milieu. Les gens s'intéressent moins au fitness, selon toi, ils s'intéressent plus au fitness. Est-ce qu'il y a des vagues? Est-ce qu'aujourd'hui, la vague fait que les gens s'entraînent moins intelligemment, qu'il y a plus de conneries, ou alors il y a toujours eu autant de conneries, et finalement, il n'y a rien qui a changé?
Alors attends, tu me poses deux questions. Est-ce que les gens s'intéressent toujours au fitness?
Ouais.
Est-ce qu'il y a toujours autant de conneries dans le fitness?
Ouais,
C'est ça?
ouais, ouais.
Est-ce que les
Ouais,
gens
entre
s'intéressent
autres.
toujours au fitness? Alors, écoute, je pense que oui, les gens
Sur tes
s'intéressent.
tendances, toi.
Moi, je pense que oui, les gens s'intéressent toujours au fitness. Je pense que les gens aujourd'hui sont plus éduqués aussi dans le fitness. Et du coup, ils cherchent peut-être plus des informations plus techniques. En tout cas, dans le public anglophone. Et c'est une tendance que moi je remarque aussi dans le public francophone via un peu les retours sur ma chaîne. Après bon, ça reste quand même marginal, hein. Je ne fais pas autant de vues que Thibaut InShape, par exemple. D'accord? Après, tu vas me dire, c'est
Oui, bah
peut-être
c'est
pas
pas.
le même, la même chose. La chaîne de Thibaut InShape ou de Enzo ou peut-être de Rudy, ou c'est peut-être quelque chose qui va plus parler à la masse, alors que les vidéos d'Olympite, c'est très académique. Donc, si t'as pas envie de... C'est ennuyant, si tu veux. Mes vidéos sont ennuyantes pour les gens qui n'ont pas envie d'apprendre, qui veulent juste avoir... Pour les gens qui veulent juste avoir le
S'amuser, ouais.
poisson et qui ne veulent pas apprendre à pêcher, ma chaîne n'est pas faite pour eux, ça c'est sûr. D'accord? Ça c'est sûr. Donc, moi, je donne pas des choses comme ça directement sans expliquer. J'essaie d'expliquer aux gens pourquoi je leur demande de faire ceci ou je leur conseille de faire ceci. J'essaie de leur expliquer pour qu'ils puissent comprendre et après choisir par eux-mêmes s'ils ont envie ou pas. D'accord? Mais j'essaie de leur donner quand même un minimum de connaissances basiques. Donc, si t'as pas envie vraiment d'apprendre, si t'as pas la patience d'écouter et d'essayer de comprendre les nuances, si tu veux vraiment quelque chose, une solution rapide, simple, ben pff, malheureusement non, ça sera pas sur ma chaîne, tu vois. Donc
Et comme je disais tout à l'heure, tu as une approche très biomécanique, hein, du mouvement.
oui, tout à fait.
Tu penses quoi, toi, des tendances aujourd'hui qui sont beaucoup moins biomécaniques et qui vont être plus. Je sais pas quel pourrait être, comment on pourrait appeler le. Ou alors j'ai pas le nom. Le contraire du biomécanique. Qui va être dans l'adaptation tissulaire,
Je ne sais pas
le
quel va être...
mouvement général, peut-être.
Ouais, je ne sais pas quel va être le terme, mais si tu veux, moi, la différence, la grande différence que j'essaye de transmettre aux gens, c'est d'un point de vue de l'entraînement en musculation, c'est d'essayer de... Tu m'as parlé de comment s'entraîner intelligemment. Donc, pour essayer de s'entraîner intelligemment, ce que je prône, moi, et ce que j'essaie de transmettre via ma chaîne, c'est d'avoir une approche de la musculation qui est plutôt basée sur le mouvement. D'accord? Et non pas sur le muscle. Donc, quand je vais m'entraîner à la salle, si tu veux, je vais pas me dire, tiens, aujourd'hui, je vais faire pec biceps. Je vais plutôt raisonner en termes de mouvement. Je vais dire, par exemple, aujourd'hui, je vais travailler la poussée horizontale ou le tirage horizontal ou la poussée verticale ou le tirage vertical. Tu vois, je vais essayer de raisonner en termes de schéma moteur et non pas en termes musculaires. Donc, je pense que déjà, ça, si tu veux, c'est une partie de l'approche biomécanique, c'est qu'on va plus raisonner en termes de muscles isolés, mais on va plutôt essayer de raisonner en prenant en compte comment le corps fonctionne d'un point de vue mouvement global. D'accord? Donc je pense qu'elle est là, si tu veux, la différence que moi j'essaie de transmettre un peu via mes vidéos. Essayer de faire comprendre
Et alors,
aux gens que c'est beaucoup plus
et pourquoi?
efficace pour des raisons... quand notre objectif c'est d'avoir une bonne condition physique générale, hein, d'accord? Bonne condition physique générale, être athlétique, être en forme, être fort, être endurant, être explosif, être un athlète. C'est beaucoup plus efficace d'essayer d'entraîner le corps comme il est conçu pour bouger, en prenant comme base de réflexion le mouvement, d'accord? Que d'essayer d'isoler les muscles et de les travailler d'une façon isolée les uns des autres.
Et en bodybuilding, ça va être l'inverse.
Tout à fait. Donc, le
Voilà.
bodybuilding, le but du bodybuilding, c'est pas de construire l'athlète le plus fonctionnel possible. Le but du bodybuilding, c'est de construire l'athlète le plus musclé possible, et en même temps le plus maigre possible. Donc le but c'est d'être le plus, d'augmenter, de maximiser l'hypertrophie musculaire et de minimiser le plus possible la prise de masse graisse, hein, pour faire une compétition en bodybuilding, bien sûr, hein. Donc les stratégies de l'entraînement du bodybuilding sont différentes, bien sûr, des stratégies de l'entraînement fonctionnel, justement parce que le but du bodybuilding n'est pas forcément d'être fonctionnel, mais c'est plutôt d'être le plus massif possible.
Quand tu parles de fonctionnalité comme ça, est-ce que tu parles... Est-ce que c'est en vue d'une autre activité physique? Est-ce que c'est en vue d'un transfert? Donc, ce qu'on appelle vraiment de la préparation physique pour un autre sport? Ou pour... parce que j'aime bien me demander, moi, fonctionnel, mais fonctionnel pourquoi? Tu vois?
Alors, en termes généraux, bien sûr. Après, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Fonctionnel pourquoi? Bah, déjà, en parlant d'une... La cible, c'est une population, la population générale non pathologique. OK? Donc c'est quelqu'un qui, comme toi et moi, bouge normalement, qui n'a pas forcément des problèmes. Le squat, par exemple, on peut dire que c'est un mouvement fonctionnel. C'est un mouvement qui va te permettre de travailler la triple flexion, triple extension. Pour faire correctement le mouvement, tu as besoin d'avoir une bonne mobilité au niveau de la cheville, une bonne mobilité au niveau de la hanche. Tu as besoin de savoir comment bien stabiliser ta hanche. Tu as besoin de savoir comment bien stabiliser ton tronc, ton rachis. Tu as besoin de savoir comment bien utiliser la pression intra-abdominale, comment bien faire la respiration, la manœuvre de Valsalva, etc., etc. Donc, ça va t'apprendre plein d'aptitudes que tu peux aller aussi utiliser sur le terrain, que ça soit en sport co, que ça soit dans n'importe quel autre sport. D'accord, tu vas utiliser les mêmes schémas moteurs. Quand tu sautes, c'est une triple flexion, c'est une triple extension, c'est comme au squat. Donc c'est un mouvement fonctionnel pour la cible, c'est la population générale. Après, tu vas me dire, oui, ok, mais du coup, si on raisonne, si on continue un peu et qu'on pousse le raisonnement, les leg extensions à la machine, ce n'est pas fonctionnel. D'accord ? Ce n'est pas fonctionnel parce que... Bon,
dans ce sens-là.
Voilà. Pour le public, population générale, dans le but d'améliorer, de travailler l'athlétisme, le leg extension, bon, c'est moins fonctionnel que le squat. Mais par contre, si tu as un amputé, d'accord, un amputé d'une jambe, tu veux lui faire travailler l'autre jambe, et il peut pas faire du squat, lui. Donc pour lui, le squat n'est pas du tout un exercice fonctionnel. C'est un exercice complètement non fonctionnel qu'il ne peut même pas faire. Donc du coup, tu vas peut-être lui faire faire des leg extensions et pour cette personne-là, le leg extension devient un exercice fonctionnel. Mais là, on sort un peu du cadre de la population générale.
Ok. Et toi, t'as une... Alors ça, c'est la préparation... Enfin, comment on peut dire la préparation physique générale, mais est-ce que t'as des sports, t'as des athlètes ou t'as des affinités particulières sur des sports en particulier, des sports spécifiques pour lesquels tu aimes bien entraîner des gens, tu vois, pour justement avoir cette fonctionnalité qui va être redirigée vers quelque chose de spécifique.
Tant que l'activité se fait sur les deux jambes, moi ça me va. Voilà. Donc moi je travaille avec plein de sportifs différents, je travaille avec des tennismen, je travaille avec des gens qui font des sports co, des rugbymen, des footballeurs. Je travaille avec des nageurs, je travaille avec... tant que la personne, elle est en train d'utiliser ses deux jambes et ses deux bras pour faire l'activité, pour faire son sport, je peux très bien la prendre en charge. Et j'ai même travaillé avec un patineur artistique, patineur sur glace. Donc voilà, si tu veux... Tant que tu es athlète et que tu as besoin de transmettre des forces via tes membres sup, pour par exemple un tennisman, ou alors tes membres inf, pour par exemple un footballeur, bah tu as besoin de la préparation physique et tu as besoin d'incorporer des exercices fonctionnels qui peuvent te permettre de l'explosivité, la force, l'endurance que tu développes en salle puisse être transférable à ton activité.
Ok, et tout à l'heure, tu vois, tu parlais des schémas moteurs. Alors, ça, c'est un truc qui t'a été enseigné en STAPS. Est-ce que c'est toi qui a fait tes recherches à côté? Parce que de plus en plus dans le... Alors là, on est un peu plus dans la préparation physique, mais de plus en plus dans les coachs ou en tout cas les conseils qu'on peut entendre sur l'entraînement en salle de sport classique, un petit peu de monsieur, madame, tout le monde. Ça va de plus en plus vers l'isolation, ça va de plus en plus, on veut travailler tel muscle, on veut travailler tel muscle, on veut pas travailler des mouvements. Moi, je l'ai entendu beaucoup de fois sur ce podcast et ailleurs, c'est que en salle de sport, tu n'entraînes pas un mouvement, tu entraînes un muscle. On a dit que dans le bodybuilding pur, tu vois, c'était le cas.
Oui.
Ouais. T'es pas d'accord. Comment tu perçois ça finalement, tu vois?
Bah, tu me dis en salle de sport, on entraîne un muscle, on n'entraîne pas le mouvement. Donc le mouvement, tu l'entraînes où? Si tu l'entraînes pas en salle de sport, bon, l'entraînes où? En salle de sport, tu fais ce que tu veux. La salle de sport, c'est une boîte à outils. D'accord? Tu fais ce que tu veux avec. Donc la salle de sport n'est pas un sanctuaire de la musculation avec des exercices d'isolation. Tu fais ce que tu veux, ça dépend de tes objectifs. Si tu as un objectif de maximiser l'hypertrophie ou le côté esthétique de la culture physique, oui, bien sûr, les exercices d'isolation ont leur place. Si ton objectif est d'être plutôt un athlète global, polyvalent, vaut mieux se focaliser plutôt sur des exercices polyarticulaires.
Ok. Est-ce que tu en vois beaucoup? Alors, peut-être pas des sportifs ou des athlètes spécifiques à des sports, mais des gens qui viennent te voir, est-ce qu'il y en a beaucoup qui veulent être comme ça? Qui veulent se dire, moi, je veux être complet, je veux être un
sportif, je veux pouvoir être fonctionnel,
je veux pouvoir... Ah ouais?
C'est la majorité.
Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que... Enfin, bon, après, c'est peut-être pas les générations aussi.
Toi, tu as vraiment l'impression...
Le paraître, tout ça.
Ouais, bah écoute, tu vois, on revient un peu à ma chaîne YouTube. Je veux dire, mes clients sont qui? Ben, sont les gens qui s'intéressent à ce que je fais. Donc automatiquement, si tu veux, j'attire le type de gens qui est sensible au message que je transmets. Après, paradoxalement, j'ai aussi des gens qui me disent « Alex, moi, je veux prendre de la masse musculaire. Ça, c'est mon but. » Parce que je fais aussi beaucoup de remise en forme. J'ai beaucoup de gens qui me disent « Voilà, moi, mon objectif, c'est de devenir musclé, quoi. Je veux faire du body. » Je veux être le plus musclé possible. Et dans ce cas-là, bien sûr, j'incorpore des exercices d'isolation. Ils sont très intéressants dans cet objectif-là. D'accord? Attention, faut pas me faire dire ce que je ne suis pas en train de dire. Je suis pas en train de dire que l'exercice d'isolation ne sert à rien, que c'est nul. C'est même le contraire. Je suis en train de dire que ça soit des exercices d'isolation, que ça soit des exercices polyarticulaires, les deux ont leur place. D'accord? Les deux sont des outils différents qui vont être utilisés dans des cas de figure différents. Dire que aller à la salle de sport, c'est uniquement pour faire de l'isolation, c'est mal comprendre un peu l'équipement qu'il y a dans une salle de sport. C'est-à-dire, si tu vas dans une salle de sport et tu as un plateau d'haltéro qui est disponible, le plateau d'haltéro n'est pas là pour que tu puisses faire des exercices d'isolation. Il est là pour faire des exercices polyarticulaires globaux, hein, des squats, des soulevés de terre, des arrachés, des épaulés.
Et alors, comment tu gères la mobilité? Est-ce que pour toi c'est un facteur essentiel avant de commencer à faire des exercices fonctionnels, à faire des exercices polyarticulaires? Est-ce qu'il faut avoir une certaine mobilité ou c'est en travaillant, en faisant ces exercices que la mobilité vient? Comment tu l'incorpores et comment tu l'aperçois dans cet ensemble?
C'est une bonne question. Si tu veux, au début, quand je prends en charge une personne, donc bien sûr, je lui fais faire quelques exercices tests pour que je puisse juger un peu, pour que je puisse voir comment son corps bouge. Moi, c'est ça ce qui m'intéresse. Comment son corps bouge. Aujourd'hui, là, hop, je te prends, Jérôme, je veux voir comment ton corps bouge. Pourquoi? Parce qu'il faut que je te propose des exercices que tu peux faire. Que tu peux faire correctement, en respectant des schémas moteurs fonctionnels, sans compenser et tomber dans des schémas moteurs dysfonctionnels et inefficaces, d'accord? Donc, du coup, je te demande de faire quelques petits exercices de base, très simples. Par exemple, juste le fait de s'accroupir. Juste le fait de s'accroupir, pour moi, c'est un exercice qui me permet de tester un peu ta mobilité, par exemple. Est-ce que tu peux t'accroupir, par exemple, sans lever les talons, en gardant ton pied à plat au sol? Ça peut m'aider pour savoir est-ce que tu as une bonne flexion plantaire, le dorsal, excuse-moi. Est-ce que tu as une bonne dorsiflexion?
Je suis, oui.
Donc, l'exercice en lui-même peut être un test de mobilité. Après, en fonction de ton bagage, de ce que ton corps peut faire aujourd'hui, soit tu as plutôt une bonne mobilité générale. Et donc, on va essayer de l'entretenir, voire peut-être même de l'améliorer un peu via des exercices de musculation, soit tu es vraiment quelqu'un qui est limité en termes de mobilité, et donc on a peu de choix d'exercices de musculation pour toi. Dans ce cas-là, bon, bien sûr, on va quand même incorporer des exercices que tu peux faire, mais on va travailler plus sur ta mobilité parce qu'il t'en manque et il faut quand même que tu passes du temps dessus, d'accord, pour améliorer ta souplesse, ta mobilité, pour pouvoir avoir accès à un plus large panel d'exercices ou d'amplitude de mouvement. D'accord ? Si par exemple.
Et là-dedans.
Ouais.
Non, non, je t'en prie. Vas-y.
Si par exemple, tu es limité en dorsiflexion et que tu ne peux pas faire un squat complet parce que, bah, malheureusement, ta cheville ne te le permet pas. Pour faire un squat complet, tu as besoin d'une flexion du genou. Pour faire une bonne flexion du genou, tu as besoin que le tibia avance dans le plan sagittal du fémur. Pour que le tibia avance dans le plan sagittal du fémur, tu as besoin d'avoir une bonne dorsiflexion. Si tu l'as pas, tu vas être limité et donc tu pourras pas bien fléchir ton genou, donc tu pourras pas descendre trop bas en squat. Tu pourras faire que des quarts de squat. Très bien, on fera que des quarts de squat, mais en parallèle, on mettra en place quelques exercices pour essayer d'améliorer cette mobilité au niveau de la cheville. On peut faire encore mieux, c'est-à-dire qu'on peut court-circuiter un peu la mobilité de la cheville en surélevant les talons, en mettant par exemple des cales sous les talons, pour que tu puisses quand même faire tes squats complets, hein, en attendant que tu améliores ta mobilité de la cheville, par exemple.
Et est-ce que dans tout ça, tu prends en compte aussi, est-ce que tu as l'habitude de prendre en compte les différences morphologique sur les segments osseux, sur la longueur des fémurs, la longueur des tibias, tu vas en parler peut-être l'ouverture de hanche, des choses comme ça, où tu fais partie de ce, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu, il y a ceux qui le prennent en compte, ils pensent que c'est très important, et puis il y a ceux qui disent en fait tout ça c'est un peu trop surestimé, surévalué, et que ça fait pas une différence.
Ça fait pas tant de différence par rapport à quoi? De quoi on parle?
Bah là, tu vois, par exemple, on va prendre l'exemple du fait de s'accroupir. Est-ce que sur ceux qui vont avoir de longs fémurs, tu vois, qui vont être déséquilibrés sur le fait de s'accroupir, c'est-à-dire qu'ils vont pas. J'en connais deux trois. Alors peut-être qu'il y a aussi des problèmes de mobilité. Je sais pas. Tu vois, je suis pas un professionnel sur l'analyse de ce truc-là. Et je l'ai pas fait souvent, mais. Tu vois, qui vont essayer de s'accroupir, et en fait, ils ne vont pas tenir l'équilibre et qui vont basculer en arrière, qui ont une flexion de cheville, une dorsiflexion, tu vois, qui paraît assez, assez correcte. Mais, si tu veux, d'un point de vue mécanique, la longueur du fémur fait qu'il y a un déséquilibre et qu'ils ne peuvent pas tenir en position accroupie, donc par conséquent, que le squat n'est pas fait pour eux. Est-ce que ça, tu le prends en compte ou tu penses que c'est surestimé?
Tu viens de donner la réponse par toi-même. Pour ces gens-là, les gens qui sont vraiment très longilignes, qui ont du mal à faire un squat correctement parce qu'ils ne peuvent pas se plier correctement en triple flexion et en triple extension d'une façon homogène, ils vont peut-être faire une flexion de hanche qui va être beaucoup plus importante que la flexion du genou pour rester équilibré au niveau de leur centre de masse. Sinon, ils vont se casser la gueule, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Donc pour ces gens-là, c'est toi qui l'as dit, le squat peut-être n'est pas un très bon exercice. Donc comment est-ce que tu peux négliger la physiologie de quelqu'un? Le but, c'est de travailler avec sa physiologie. On ne peut pas la négliger. C'est comme si tu me disais tiens, j'ai une vis cruciforme à dévisser, je te donne un marteau. Non, je peux pas. J'ai besoin d'un tournevis cruciforme. C'est-à-dire, j'ai besoin de l'outil qui me permet de remplir la tâche que je veux remplir. Donc automatiquement, quand j'ai une personne qui a une physiologie qui lui est unique, si je la prends pas en compte, c'est comme si je me disais, tiens, je vais pas prendre en compte la vis cruciforme et je vais prendre un outil qui est complètement pas adapté parce que je m'en fous, dans tous les cas, ça sert à rien.
Ok.
Donc, c'est impossible de ne pas prendre la physiologie de la personne. Sinon, t'es vraiment un coach qui n'a pas vraiment bien compris le but de son métier. Enfin,
C'est quoi qui te plaît le plus dans ce métier?
C'est quoi ce qui me plaît le plus? Alors déjà, j'adore l'aspect mécanique. Donc moi, je suis vraiment quelqu'un qui a un esprit très cartésien, très scientifique, et j'aime beaucoup la mécanique en soi. J'adore le fait aussi de mieux comprendre comment fonctionne le corps humain. Et je suis tout le temps ébahi et fasciné par cette machine qui est juste magnifique. Est extrêmement complexe, et tout ce qu'on pense connaître aujourd'hui de la bioméca, c'est rien du tout, hein. C'est vraiment, c'est des peanuts, quoi. C'est vraiment des choses très très basiques qu'on essaye de comprendre, qu'on essaye de ranger dans des plans sagittales, transverses, blabla, abduction, adduction, pour essayer de ranger tout dans des cases, parce que notre esprit est tellement simpliste et tellement peu développé qu'on ne peut pas vraiment comprendre la complexité du mouvement humain. Donc voilà, je suis toujours... ça, c'est quelque chose aussi qui c'est époustouflant de voir à quel point cette machine est complexe et à quel point on connaît rien, et que plus on découvre, plus on est... C'est comme un enfant qui est en train de découvrir, d'ouvrir son cadeau et de découvrir son jouet au fur et à mesure qu'il ouvre son cadeau, quoi. Tu vois, il est ébahi. Et puis, bien sûr, le contact humain. Le contact humain, c'est le plus important, de voir que tu es en train d'aider des gens à accomplir leur objectif et à se rapprocher le plus possible de leur idéal physique ou de performance. Ça aussi, ça t'apporte une satisfaction qui n'a pas d'égal, hein, quand tu as des gens qui te remercient, qui sont extrêmement contents, parce qu'enfin, ils peuvent faire un soulevé de terre sans avoir mal au dos, alors qu'ils traînent une douleur au dos depuis 10 ans, c'est extrêmement gratifiant.
Et justement, c'est quoi ton avis sur le mal de dos et le soulevé de terre Je vais pas dire dos rond, parce que c'est encore, j'ai l'impression que je le pose à beaucoup de mes invités ces temps-ci. Parce que c'est un peu à la mode aussi, il faut dire. Il y a de plus en plus de... Je sais pas si tu... D'ailleurs, je sais pas comment ça se passe du côté anglophone, mais francophone, il y a des débats houleux sur soulever terre de rond, oui ou non. Alors, d'un côté, les études diraient qu'il faut que c'est intéressant parce que ça renforce un disque, ligament, et etc., etc. Et puis, de l'autre côté, c'est complètement une hérésie. Continuer à faire du soulever terre de rond, on en reparlera dans 20 ans. Donc, il y a un peu tout ça. Où c'est que tu te places, toi? Est-ce que déjà, tu as eu vent de ces débats-là?
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je sais que c'est un sujet qui est d'actualité. C'est un sujet qui est d'actualité, c'est sûr. Après, où est-ce que je me place? C'est une bonne question. Si tu veux, moi, à chaque fois que je suis face à un sujet qui est un peu polémique, j'essaie de voir un peu surmonter la preuve du temps. Les techniques d'entraînement qui existent depuis des lustres, si elles étaient mauvaises, naturellement, par la sélection naturelle des choses, ils auraient sauté. Ils auraient disparu. Donc c'est ce qu'on appelle the proof of time, en anglais. Donc...
Ce qui marche à peu près avec tout, hein, d'ailleurs, pas qu'avec...
Ce qui marche, exactement, ce qui marche avec tout. Donc des fois, on a envie de se faire des nœuds au cerveau, parce que voilà, on est des gens qui, je ne sais pas, honnêtement, les sciences sociales, c'est un domaine qui est très intéressant, mais qui est extrêmement complexe. Et l'être humain, des fois, il a besoin de remettre en question des choses qui ont déjà été établies, mais qui se dit « Ah non, on va tout reprendre à zéro ». Pourquoi? Enfin, c'est bon, c'est déjà fait. Il y a des choses, c'est déjà connu. Enfin, on n'a pas besoin de les remettre en question. Après, ok, pourquoi pas. Donc, du coup, le dos rond, soulevé de terre, dos rond. Alors, depuis des lustres, le soulevé de terre, on ne le fait pas dos rond, en général. Il y a toujours des exceptions. D'accord? Et d'ailleurs, ces gens-là qui vont te dire, oui, mais si, regarde, il y a des gens qui font soulevé de terre, dos rond. Alors, il y a plusieurs choses.
On parle de la colonne lombaire, hein. On parle de la colonne lombaire, hein.
Voilà, on parle de la colonne lombaire, très
parce
bien.
Parce qu'il y a aussi beaucoup de powerlifters qui disent qu'il n'y a pas de problème d'avoir le dos rond au niveau de la colonne dorsale.
Tu fais très bien de le préciser, on parle de la colonne lombaire. Donc déjà, il faut faire la différence entre de quoi on est en train de parler, une flexion lombaire, une flexion thoracique. Une flexion thoracique dans le domaine, c'est vrai, ça a toujours existé, ça existe toujours. Et généralement, vu qu'on parle du soulevé de terre, on va rester dans le soulevé de terre. Le soulevé de terre, c'est qui le fait? Enfin, c'est qui? C'est ma grand-mère qui fait du soulevé de terre? Non, le soulevé de terre, ce sont des gens qui s'entraînent. Je veux dire, c'est soit des forces athlétistes, d'accord, soit des haltérophiles qui font des soulevés de terre en général. Les gens qui font de la muscu pour l'esthétique font très peu de soulevés de terre, d'accord. Ils vont faire plutôt des leg extensions ou des hyper extensions au banc, parce que comme tu l'as dit, ils préfèrent plutôt des exercices d'isolation. Donc déjà à la base, les gens qui font souvent le soulevé de terre, c'est des athlètes de haut niveau et qui travaillent en force, hein, la force athlétique et l'haltérophilie. Maintenant, ce sont des choses qui sont devenus à la mode avec le CrossFit, mais avant, personne n'en parlait, d'accord? Personne n'en parlait. Donc si on regarde un peu dans ce pool-là, des gens qui font des soulevés de terre lourds et des gens qui font de l'arraché lourd en force athlétique avec une colonne lombaire arrondie, Non. Enfin, c'est ça. Je ne vais pas dire que ça n'existe pas, parce que ça existe, mais c'est une infime minorité. D'accord ? La plupart des haltérophiles, la plupart des forces athlétistes, quand ils font leur soulevé de terre, ils ont le dos bien placé, c'est-à-dire qu'ils respectent les courbures naturelles de la colonne vertébrale. Des fois, ils ont effectivement une syphose qui va un peu plus s'accentuer, mais encore une fois, c'est une syphose dorsale, donc c'est au niveau des vertèbres dorsales qui sont mieux tolérants à la flexion que l'étage lombaire. Et en plus, c'est quelque chose qui arrive suite à des années et des années d'entraînement. Donc si tu veux, leur collagène et leurs disques intervertébraux et leurs ligaments se sont aussi renforcés et se sont adaptés. Donc ce n'est pas du jour au lendemain que quelqu'un, hop, vient, prend une barre et hop, dos rond, que ça soit lombaire ou thoracique. Peu importe que ce soit lombaire ou thoracique, dans tous les cas, il faut comprendre que c'est quelque chose qui vient avec le temps et avec l'entraînement et la forme du dos rond, vertèbre thoracique arrondi au soulevé de terre, c'est restreint à la pratique au moment où on veut faire un PR, un personal record, d'accord, une compétition. On s'entraîne pas tous les jours avec le dos rond, d'accord. On essaie quand même de garder un dos bien placé. Des fois, effectivement, on va essayer d'aller chercher cette syphose dorsale et l'entraîner aussi pour être beaucoup plus fort et beaucoup plus à l'aise dans cette position quand on est en train de tirer le jour de la compétition. Mais encore une fois, ce sont des choses qui s'acquièrent avec l'entraînement. Donc, du jour au lendemain, venir prendre une barre et la tirer avec un dos rond, je pense que tu as plus de chances de te blesser en faisant ça qu'en te plaçant correctement. D'accord ? Premièrement. Deuxièmement, quand tu me parles, donc déjà, on a fait le point sur l'étage lombaire, l'étage thoracique. Flexion thoracique, ok, pourquoi pas, ça existe dans le domaine et ça s'entraîne. Flexion lombaire, non, ça n'existe presque pas. Ça existe uniquement chez les gens qui, effectivement, peut-être ont du mal à placer correctement les lombaires et donc ils n'arrivent pas à bien gainer. Ou alors, c'est des athlètes vraiment de très haut niveau qui se disent « fuck it, moi là, je suis en compète ». J'ai ce poids-là, je veux battre un record, j'en ai rien à foutre de ma colonne vertébrale, d'accord ? Je prends les risques. Je veux dire, j'ai écouté un jour un documentaire sur l'utilisation des anabolisants chez des athlètes. Et donc ça, c'est une étude hein, je peux la retrouver si tu veux. C'est une étude qui a regardé un peu comment est-ce que les athlètes réagissent face au danger d'une substance. Qui peut les aider à mieux performer. Et donc, on disait aux athlètes, regardez, donc ça c'est des anabolisants, ça peut vous aider à performer, mais par contre, ça peut aussi vous tuer. Est-ce que vous en prenez ? Tu as 50% des athlètes qui disent oui, j'en prends. D'accord ? Donc, c'est pas parce que tu vois un force athlétiste en train de faire une flexion globale. Flexion globale, c'est-à-dire lombaire et thoracique. C'est pas parce que tu le vois en train de le faire que automatiquement, bah, ce n'est pas, il y a aucun risque, en fait. Il y a aucun risque, c'est top, il le fait, donc toi aussi tu peux le faire. Non. Il le fait parce qu'il a envie de battre un record, parce qu'il a un objectif de performance et parce qu'il est prêt à prendre le risque, d'accord, pour arriver à ses fins. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Il est prêt à prendre le risque. Il est prêt à prendre des anabolisants, même s'il sait que ça peut le tuer, pour mieux performer. Il est prêt à arrondir le rachis lombaire, même s'il sait que ça peut augmenter le risque de blessure. Au niveau des vertèbres lombaires, il est prêt à le faire parce que ça peut améliorer sa performance. D'accord ? Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Donc, le deuxième point. Le troisième point, tu m'as parlé, oui, mais ça permet de renforcer les vertèbres et les ligaments. Effectivement, bien sûr que ça permet de renforcer les vertèbres et les ligaments. Je ne dis pas le contraire. Mais par contre, le problème avec les vertèbres, le collagène du disque intervertébral et les ligaments, c'est que ce sont des tissus, surtout les disques intervertébraux, donc tu le sais, tu es ostéopathe, ce sont des tissus qui ne sont pas innervés. Mmh. Mmh. Quand tu entraînes ton muscle et que tu t'entraînes trop, que tu pousses trop, que tu as une intensité qui n'est pas adaptée aux capacités de récupération de ton muscle te fait ressentir et te dit « merde, au minimum j'ai une courbature, si je force un peu plus parce que je suis un bourrin, j'ai une élongation ». Et si je suis vraiment bourrin et que je comprends rien, que j'ai rien dans la tête et que je veux y aller droit dans le mur, ben c'est une déchirure. D'accord ? Donc ton muscle, il te parle. Il te dit, attention, là, aïe, j'ai un peu mal. Là, hop, j'ai un peu plus mal. Là, putain, je peux même plus me contracter. Ton disque intervertébral, il va pas te parler. Donc, ok. Donc, comment tu fais pour doser, ouais, du coup, l'entraînement ? Est-ce qu'il y a des
c'est ça qui est
qui
difficile.
Bon, ben voilà. Donc, c'est pour cela qu'il faut, avoir une approche préventive et garder un rachis le plus neutre possible quand tu es en train de pousser lourd, quand tu es en train de faire des mouvements à haute vélocité ou avec une charge importante. Quand tu es en train de faire tes lacets, que tu arrondis ta colonne lombaire, on n'en a rien à foutre, en fait. La colonne vertébrale est faite pour bouger. Donc, tu peux très bien faire tes lacets ou ramasser un objet par terre sans forcément... Tu dois être capable de le faire. Tu n'es pas obligé de gainer et de faire attention à la posture de ton bassin, tes versions, rétroversions, à la pression intra-abdominale, la contraction des abdos pour ramasser ta carte bancaire qui est tombée. Non, on s'en fout. Mais quand tu es en salle de sport, que tu as des mouvements à haute vélocité ou des mouvements à charge lourde, tu as tout intérêt à rester bien gainé et à maîtriser la position de ton rachis. Premièrement, pour bien sûr la santé de ton rachis, deuxièmement, pour le transfert des forces.
Eh ben écoute, discours nuancé que j'aime beaucoup. Hein, je pense que ça vous plaît. Hein, je fais des petits clins d'œil des pauvres auditeurs qui nous écoutent.
Il y a quelque chose aussi qui est important, qui est intéressant dans ces propos-là, c'est que si tu veux, on sait que quand il faut faire une différence entre un dos bien placé visuellement. Donc moi, je suis coach, je vais à la salle, je regarde avec mes yeux. J'ai pas un appareil à rayon X. Je ne peux pas voir vraiment ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale. Je peux voir uniquement ce que je vois avec mes yeux. On a des études qui nous montrent aujourd'hui que quand tu vois un soulevé de terre ou un squat avec un dos visuellement droit, c'est que déjà, à la base, à l'intérieur de ce qui se passe au niveau de la colonne lombaire, il y a déjà une flexion. On voit qu'il y a déjà une flexion. Même si visuellement,
il y a déjà une petite flexion.
Il y a déjà une flexion.
Qu'on voit pas.
D'accord. Donc même quand toi, en tant que coach, tu dis aux gens attention, gardez le dos droit, ben en fait, même s'ils essayent de garder le dos droit ou de respecter les courbures naturelles de la colonne vertébrale, symphyse thoracique, lordose lombaire, ben ils y arrivent pas intrinsèquement parlant. La colonne lombaire va quand même fléchir. Donc on a déjà une flexion. Et on sait aussi que la flexion lombaire, au-delà de certains degrés, commence à augmenter les contraintes mécaniques et peut effectivement augmenter le risque de blessure au niveau du collagène qui entoure le disque intervertébral. D'accord, on sait ça. Même les gens qui te disent il faut tirer avec un dos rond, ils te disent attention, à un certain degré, ça commence à être problématique. Donc même eux, ils le reconnaissent. Mais par contre, ils oublient que même en ayant le dos droit visuellement, ton dos est déjà rond, en fait. Tu es déjà en flexion lombaire, mais tu le vois pas. Donc imagine quand tu le vois. Quand tu vois la flexion lombaire, c'est que là, t'es vraiment en train de dépasser, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, donc, tu dépasses les limites, quoi. Et tu te rapproches de la blessure. Ok, non, mais alors, tu vois, c'est bien. Propos nuancés, moi, j'aime bien toujours. Hein, on recontextualise un peu, on essaie de comprendre l'un et l'autre, et puis on se place un peu intelligemment. J'aime bien parce que on prend des. Souvent, ce qu'on entend, et tu vois, c'est le fait de tout remettre en question et d'essayer de trouver des nouvelles choses, c'est que souvent, on prend quelque chose et puis on le pousse à l'extrême. Tu vas avoir. Alors, beaucoup, les discours, ça va être tiens, ben, comme tu as dit, on va pouvoir être capable d'aller chercher un objet par terre, on va pouvoir être capable de faire ses lacets sans forcément faire attention, gainer, se mettre dans une position parfaite. Et souvent, ce qu'on retrouve chez ceux qui partent dans les extrêmes, c'est qu'ils prennent cette situation-là et puis ils vont la pousser en se disant bah, allez, allons jusqu'à mettre du poids, allons jusqu'à mettre 100 kilos sur ce mouvement-là, sur de la flexion. Là où moi, je suis toujours un petit peu circonspect. Et ensuite, effectivement, tu as le truc complètement inverse. On va se dire attention, dès que tu vas te baisser, tu vas te faire mal. Alors, se placer un peu entre les deux, comme tu l'expliquais, je trouve que ça permet de mieux comprendre des choses. Et comme tu l'as dit, effectivement, le disque, les ligaments sont pas sont peu innervés. En tout cas, on voit très peu d'informations. Et une hernie discale, par exemple, puisque ça va être une détérioration ou une problématique qu'il va y avoir sur le disque intervertébral, une hernie discale en tant que telle, tu vas quasiment pas la sentir. D'ailleurs, alors major mouvement, mais je pense à lui parce qu'il l'a beaucoup dit, puis il l'avait dit sur ce podcast quand je l'avais demandé pour lui un des plus grands mythes. C'est la discordance clinique, symptôme et radio clinique, quoi. Tu vois, c'est que on peut te faire une radio, on va probablement peut-être te trouver une petite hernie discale, une protrusion, et pourtant tu vas pas avoir mal au dos. Et puis tu peux très bien avoir mal au dos, on va te faire passer une radio, et puis il y aura pas de symptômes, d'une symptomatologie au niveau de l'hernie discale. Et c'est de se dire que tu peux très bien avoir un problème discal, sans avoir de douleur, mais que la douleur va apparaître quand il va y avoir soit une compression d'une racine nerveuse, soit parce qu'il va y avoir un spasme musculaire, soit la douleur pour provenir d'autres choses. J'en ai parlé aussi avec Pierre-Élie Bernard, c'est que c'était l'épisode 100 et quelques. Je laisserai les numéros pour ceux qui veulent aller regarder, qui veulent aller creuser le sujet. Mais c'est que finalement, la douleur, elle est multifactorielle, elle peut venir de plein de choses. Et on arrête de plus en plus de penser que la hernie discale est synonyme de toute douleur. Néanmoins, et c'est ça un peu le penchant, tu vois, c'est qu'à force de se dire finalement l'hernie discale, finalement le disque, finalement ceci, en fait ça provoque pas de douleur, on va jusqu'à te dire bah tiens, tu peux mettre un max de contraintes dessus, finalement c'est fort, ça résiste et puis ça s'adapte. Ben pas forcément. Et bon, et puis Gundil dirait plutôt on en reparlera dans 30 ans.
Non mais c'est vrai, tu as tout à fait raison. Déjà, ton premier point, donc nuancer, tu prends n'importe quel système, pas uniquement les systèmes biologiques, pas uniquement le corps, n'importe quel système, un système informatique, un système mécanique, un système social, peu importe, tu le pousses à ses extrêmes, il perd de sa véracité, il devient plus vrai dans ses extrêmes, d'accord, n'importe quel système. Donc à chaque fois, que ça soit dans un extrême ou l'autre, et on peut prendre n'importe quel sujet, d'accord, et le pousser à ces deux extrêmes opposés, bah, on voit bien qu'il s'effondre. Il s'effondre dans les extrêmes. Mmh. Donc peu importe que ça soit un dos rond au soulevé de terre ou que ça soit la religion, d'accord, les extrémistes religieux, c'est pas mieux. Donc peu importe le sujet, à chaque fois qu'on n'est pas dans l'équilibre, dans le juste milieu, dans la nuance, bah, automatiquement, je pense qu'on tombe dans l'erreur. On tombe dans l'erreur. Ensuite, effectivement, les disques intervertébraux, on se balade tous, je pense qu'il y a 80-90% des gens qui se baladent avec des hernies asymptomatiques, parce que, encore une fois, je veux dire, l'hernie en elle-même, elle est très peu innervée, tu ne vas pas la sentir. Tu vas la sentir uniquement quand elle commence à avoir un impact sur les tissus qui sont autour. Donc, quand ton nucléus...
Qui sont eux-mêmes très innervés.
Tout à fait. Tout à fait. Quand le nucléus sort du disque intervertébral et qu'il commence à faire chier un peu ce qu'il y a autour, notamment les nerfs, bah, automatiquement, là, tu vas dire « aïe ». Mais il se peut que cette hernie, tu la traînes depuis 10 ans, en fait, et qu'elle est devenue symptomatique uniquement maintenant.
Donc, J'avais teasé ça dans l'épisode avec Pierre-Élie, c'est que je vais recevoir bientôt un invité là, qui est spécialisé dans les disques intervertébraux, l'air discal, donc ça va permettre de faire un très très gros épisode sur ça. On va forcément parler de biomécanique. Il arrivera là dans les prochaines semaines. Je sais pas si j'avais donné le nom, mais je préfère retenir le nom, peut-être je te le dirai après, parce que j'aime pas trop donner. Malheureusement, je l'ai fait récemment, et puis quand l'épisode il est pas enregistré, parce qu'après ça crée une attente où les gens après ils se demandent, ils me posent pourquoi cet invité il est toujours pas là. Ben non, mais des fois on essaie d'enregistrer comme Christian Thibaudeau, tu vois, j'en avais pas parlé, mais si j'avais dit tiens j'enregistre Christian Thibaudeau, il va arriver bientôt, bon ben finalement il y a eu une couille, il arrivera probablement pas de suite, quoi. Donc mais c'est intéressant, et je pense qu'on creusera le sujet là-dessus, sur les hernies discales de fond en comble. Et pour ceux que ça intéresse, et qui découvrent, abonnez-vous au podcast, là il sortira, vous le recevrez la notification quand il sortira, le titre sera assez équivoque. Est-ce que tu as d'autres sujets comme ça, tu vois, on parlait un peu des nouveautés, des choses qui reviennent sur le devant de la scène, qui sont un peu remis en cause, tu vois, c'est-à-dire que des choses qui ont été faites pendant des années, on va se dire ah, en fait non, c'était pas la bonne chose. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça qui te paraissent? Et puis des fois, c'est pour la bonne cause aussi. Hein. Des fois, on a toujours fait quelque chose, et puis on se rend compte que c'est peut-être pas la meilleure façon de faire.
Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui peut... Là, comme ça, j'ai rien qui me vient à l'esprit.
Ok. Au niveau de l'alimentation, peut-être. Qu'est-ce qu'on entend beaucoup J'ai l'impression qu'on n'entend plus grand-chose sur l'alimentation aujourd'hui.
Au niveau de l'alimentation, c'est un peu la tour des miracles. On en voit tout, on entend tout et rien. Et c'est sûr que... Non, mais oui, l'alimentation, c'est vraiment un domaine qui est pire que le fitness. Hein. Tu as vraiment des choses qui sont complètement...
C'est vrai.
Complètement... Qui n'ont aucun sens, en fait, mais qui quand même... qui quand même réussissent à trouver une audience et à se généraliser, à devenir une mode.
Oh bah, tu sais, tant qu'il y a une promesse de facilité derrière.
Ouais, après des fois c'est très idéologique, hein, je veux dire. Bon, on va pas peut-être rentrer dans des détails qui peuvent fâcher certains auditeurs, mais.
Si,
par exemple,
si,
le lait.
Fâchons, tu
par
penses
exemple,
à quoi?
par exemple, le lait. Tu vois, les produits laitiers, à un moment, c'était vraiment le diable, quoi. Je veux dire, les produits laitiers, il fallait absolument pas boire du lait. Attention, le lait, c'est pour le veau. C'est pas pour l'être humain. Donc, si le lait, c'est pour le veau, c'est-à-dire que, bah, c'est pas pour l'être humain. Et si t'en prends, bah, tu meurs, en fait. Tu vois, c'est tellement mauvais que ouais, tu crèves direct. Donc, faut pas boire une goutte
du
de
bon lait. Ouais.
Donc ça aussi, tu vois, le lait, franchement, il a reçu en plus des fois, quand le message il vient de d'une personne lambda, bon, tu te dis ok, la pauvre, elle s'y connaît pas. Mais quand le message il vient d'un corps médical, là tu te dis ah, il y a un problème en fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est chaud de pouvoir faire la différence et essayer de trouver vraiment la vérité quand il y a vraiment des gens qui normalement doivent être censés, qui sont censés quand même détenir un savoir scientifique et qui utilisent un peu leur notoriété dans le domaine pour raconter n'importe quoi. Soit consciemment, juste pour surfer sur une vague d'actualité, soit inconsciemment parce que ils ont laissé tomber un peu leur analyse critique et qu'ils se font un peu avoir par leur biais cognitif. Donc voilà, je pense que les produits laitiers est un vrai exemple un peu de cette paranoïa qui est des fois insensée et qui n'a pas vraiment de base scientifique, hein. Aucune même.
Est-ce que tu as lu le bouquin qui est sorti par Vassilis Iliopoulos et Christophe Bonnefond sur justement un
non.
bouquin sur les produits laitiers?
Non, je ne l'ai pas lu.
Ok.
Il raconte quoi ce bouquin?
Je l'ai pas lu non plus. J'ai pas eu l'occasion de me le procurer.
Après, Vassilis.
Il est disponible sur Amazon. Ouais.
Je pense que Vassilis, c'est quelqu'un qui a des bonnes bases scientifique et qui a une approche, si je me trompe pas, une approche EBP, donc Evidence Based Practice.
Oui.
Donc, s'il a écrit un livre, moi, c'est quelqu'un qui, je pense que c'est quelqu'un qui est sérieux. Donc, après, j'ai pas lu le livre, je sais pas ce qu'il y a dedans.
Alors, tu vois, c'est quand même assez drôle parce que. C'est vrai que l'alimentation. Alors moi, je parle beaucoup de promesses parce que, tu vois, pour te donner l'exemple, l'épisode que j'avais enregistré avec Vassilis, c'était il y a maintenant plusieurs mois en arrière. C'est peut-être un des épisodes qui a été le plus écouté sur les plateformes de podcast. Alors je différencie toujours entre YouTube et les plateformes de podcast parce que je pense entre la vidéo et le sujet, il peut y avoir des disparités. Il y a des podcasts qui ont cartonné par exemple sur YouTube où les gens ils regardent beaucoup les épisodes et beaucoup moins sur les applis et puis des fois l'inverse. Et Vassilis parmi ces fait partie de cet exemple-là où le titre que je vais donner peut-être a participé aussi, c'est que les j'ai l'impression que les auditeurs, la population de manière générale veut savoir a qu'une envie, c'est de savoir comment on fait pour perdre du poids. Et des fois, au-delà du discours logique, au-delà de la cohérence, au-delà des choses qui se comprennent, c'est que tu peux... Enfin, la promesse va être plus forte que tout, tu vois. Et alors, tu vois, si on revient sur cette idée-là de la bonne connaissance, c'est comment on fait, à qui se fier, à qui on doit faire confiance pour... l'alimentation, par exemple, tu vois, si on reste sur ce sujet-là. Si tu dis toi-même que le corps médical, à un moment donné, il raconte des conneries parce qu'il est peut-être pas à la page, qui c'est qu'on doit croire? Est-ce qu'il y a des cours qui sont... Comment on fait la part des choses? Il faut aller piocher partout. Alors, et on n'a pas le temps.
C'est difficile de faire la part des choses. C'est vraiment très difficile. On vit dans un monde où l'information est devenue un produit. Quand l'information devient un produit, c'est foutu. C'est foutu. Parce que du coup, tu crées de l'info juste pour vendre un produit. Et t'en as rien à foutre, en fait, de la véracité de ton info ou de l'impact que va avoir ton info sur les gens. On vit dans l'ère de l'information. On est bombardé d'informations. Il y a tellement d'informations que pour cacher la vérité, ben, c'est très simple. C'est très simple. On n'a que à fabriquer des fake news. Je veux dire. Des fois, c'est dur. C'est vrai que c'est dur. Savoir qui croire, comment vraiment chercher l'information, la vérité, c'est très dur. C'est très très dur. Alors, déjà, je pense que il faut faire la différence. Si on parle, donc moi, je vais parler du milieu scientifique. D'accord, puisque je suis un peu, c'est mon domaine, donc je vais parler de ce que je connais. Je vais pas parler des choses que je connais pas. Dans le milieu scientifique, en parlant de la nutrition ou de l'entraînement, pour pouvoir déjà se protéger contre les mauvaises informations, je pense, et peut-être que ça va être dur ce que je vais dire, mais je pense qu'il faut déjà avoir un bagage académique conséquent, au moins égal à un master ou un doctorat. Parce que si j'ai pas un master ou si j'ai pas un doctorat, je ne sais pas comment fonctionne la science. D'accord? Si j'ai pas fait des études supérieures, ben je ne sais pas comment fonctionne la science. Je ne sais pas ce que c'est la méthode scientifique. Je ne sais pas ce que sont les études scientifiques. D'ailleurs, je ne sais même pas que ça existe. Je ne sais pas ce que c'est un protocole scientifique. Je ne sais pas ce que c'est des statistiques. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, si je suis dans ce cas-là, ben je suis le plus vulnérable, en fait. Et je suis vraiment la proie à n'importe quel charlatan qui va utiliser des fois un discours pseudo-scientifique pour essayer de me vendre quelque chose qui est complètement à côté de la plaque. Mais comme je n'ai pas de base scientifique, parce que je n'ai pas un cursus académique qui me permet d'avoir ces bases-là, ben je vais le croire. Je vais le croire. Parce qu'il peut me raconter ce qu'il veut, dans tous les cas. Pour moi, ça peut paraître logique, parce que je n'ai pas les connaissances qui me servent à comprendre les nuances.
Surtout si il te dit en plus que tu as envie d'entendre.
En plus il me dit ce que j'ai envie d'entendre. Et donc là, bien sûr, je suis une proie très facile.
D'accord. Il suffit de manger une racine de bambou pour perdre 10 kilos en deux jours. Là, c'est bon, t'as chopé tout le monde.
Exactement, tu vois, des choses de ce genre. Ou par exemple, la cuisson détruit les nutriments, il faut manger cru. Okay. Donc tu vois, voilà, je veux dire, toi tu rigoles parce que bon, t'as quand même des connaissances dedans aussi.
Non, mais l'exemple fait rire.
Il y a des crudivores, Jérôme, ça existe.
Non mais oui, et le pire c'est que c'est pas une mauvaise chose, mais c'est la raison pour laquelle cette raison-là est bon et voilà, je pense que c'est pas la bonne, mais
que cru, bonne chance pour ton système digestif. Moi, je veux dire, on n'a pas un système digestif qui est optimisé pour manger cru. Il nous faut quand même la cuisson qui est une sorte de prédigestion, d'accord. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on mange tout cuit. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut qu'on mange tout cru. Je veux dire, imagine, tu manges de la viande crue, tu la digères à moitié. Alors que si elle est cuite, tu la digères beaucoup mieux parce que tu as déjà dénaturé les protéines qui sont dedans. Bref. Donc, quand on n'a pas un bagage académique qui est au moins égal à un master ou un doctorat, pourquoi master et doctorat? Parce qu'on commence à apprendre comment fonctionne la science en master, en général. En licence, on a très peu de notions. Hein, en termes de comment fonctionne la méthode scientifique. En master, on commence à l'aborder un peu plus, et puis bien sûr, le mieux, c'est le doctorat, chose que j'ai pas. Je n'ai pas un doctorat. J'aurais peut-être aimé en avoir, ça m'aurait peut-être permis d'avoir un avis qui est plus critique et d'avoir un peu plus de base et de connaissances pour mieux lire les études, mais voilà. Donc, il faut avoir soit un master, soit, je pense, un doctorat pour mieux comprendre et être une proie moins facile dans le domaine scientifique. Mais ça suffit pas, parce que il y a quand même des médecins qui tombent aussi dans ces pièges-là, parce que je pense que soit ils sont de bonne foi, et donc ils ont oublié leur analyse critique, et ils se laissent un peu aller avec leur biais cognitif, d'accord ? Ils se laissent emporter par leur biais, ou alors ils ne sont pas de bonne foi et ils veulent surfer sur la vague du moment et faire parler d'eux. Voilà. Mais en étant quelqu'un qui a un master ou qui a un doctorat, nous ne nous rend pas bulletproof, hein, il ne nous rend pas immunisés contre les fake news ou les pseudo-vérités. Il faut quand même garder un esprit critique aiguisé. Et le terme aiguisé ici est important. Juste avoir un esprit critique comme ça, ça suffit pas. Il faut qu'il soit aiguisé. Et quand on entend parler d'une nouvelle méthode révolutionnaire ou d'un nouveau produit ou quoi que ce soit, il faut toujours rester prudent et réfléchir d'une façon logique, cartésienne, rester terre à terre et essayer vraiment de peser les pour et les contre et regarder ce que disent vraiment les études, regarder par qui les études sont financées, parce que les études peuvent aussi être biaisées. Donc c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué, très compliqué. Voilà. Mon conseil, c'est vraiment de ne pas... Les gens, généralement, qu'est-ce qui se passe? Ils vont aimer une personnalité. Ils vont aller voir Olympfit. « Ah, j'aime bien Alex, je vais gober tout ce qu'il me dit. » Non, pas du tout. Déjà, cette démarche-là, elle est dangereuse. Cette démarche est dangereuse. Ce n'est pas parce que j'aime quelqu'un que automatiquement tout ce qu'il raconte est vrai et tout ce qu'il raconte est bon pour moi. D'accord? Donc, et moi le premier. Donc, si je fais des vidéos sur YouTube et si je transmets des infos, c'est à la responsabilité de chacun d'aller soit les vérifier, d'accord? Vérifier d'où elles viennent. Généralement, je cite mes sources quand c'est des sujets un peu polémiques. Donc, aller vérifier les sources. D'où est-ce que Alex, il m'a raconté ça? Enfin, comment il sait? C'est quoi? Il a la bénédiction du Saint-Esprit? Bien sûr que non. Je suis allé chercher mon information quelque part. Et si j'ai la bénédiction du Saint-Esprit, il faut commencer à avoir des doutes à ce moment-là. D'accord? Donc, vaut mieux aller chercher la source de l'information. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille à tous. Chercher la source, d'où vient la source. Une opinion d'un expert, un soi-disant expert, son opinion n'est pas une source. D'accord? Ce n'est pas parce que vous avez tel médecin ou telle personnalité compétente dans le domaine qui vous a dit quelque chose que automatiquement cette chose est vraie. D'où elle connaît cette information? D'où elle a? Quelles sont ses sources? Et il faut que les sources soient officielles. Soit des organismes officiels de santé, soit des études scientifiques qui ont été publiées dans un journal avec un comité de revue. D'accord? Les gens qui ont publié eux-mêmes leurs études sous forme de livres, ça, ce n'est pas vraiment sérieux. Déjà, c'est un indice qui nous montre que, ok, s'ils n'ont pas réussi à publier leurs études dans un journal à comité de lecture et que du coup ils ont été obligés de publier eux-mêmes leurs études sous forme d'un livre, c'est que quelque part leurs études, peut-être que c'est pas le top quoi en termes de qualité.
Une dernière chose avant que je te libère, est-ce que tu penses que ça serait une bonne chose d'intégrer un cours d'alimentation nutrition à l'école?
Oui, bien sûr, je pense que c'est une bonne chose, au moins les bases.
Pourquoi c'est pas fait?
J'ai aucune idée pourquoi c'est pas fait.
Pourquoi aujourd'hui?
Oui.
Est-ce que y a des... Non, mais il y a un intérêt à ce que les gens ne comprennent rien pour qu'on puisse leur vendre des choses derrière. Alors ça va être les théories complotistes. Est-ce qu'il y a un intérêt à aujourd'hui garder les enfants, les adolescents dans l'ignorance de... Alors ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans les podcasts, mais j'ai l'impression que tout ce qui est important dans la vie... j'exagère un petit peu, mais parmi les choses les plus importantes dans la vie, ce sont des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Gérer un budget, apprendre l'alimentation, et apprendre les dynamiques sociales, les interactions, tout ça. Chose qui va ce qu'on peut appeler plus précisément dans le monde professionnel les soft skills, par exemple. Tout ce qui va te faire progresser, tout ce qui va te faire rencontrer des gens, qui va te faire évoluer, tout ça, c'est hop. Ça va être les mathématiques, ça va être le français, ça va être, je sais pas, la chimie. Je dis pas que c'est mauvais, mais. Je me suis toujours, depuis quelques années, je me pose toujours cette question. Pourquoi les choses les plus essentielles ne sont pas apprises? C'est parce que c'est peut-être pour faire trier.
Je pense que tu mets ton doigt sur un sujet qui est très sensible. Tu as parlé de théorie de complot avant. Tu connais Jean-Paul Brighelli?
Non, je ne connais pas Jean-Paul Brighelli.
C'est Jean-Paul Brighelli, c'est un enseignant. Et un essayiste français qui a écrit un livre. Mmh. Son livre est très connu pour les gens qui
La fabrique du crétin.
Exactement, La fabrique du crétin. Et il nous dit quoi, Jean-Paul Brighelli? Il nous dit que nos élites, dans les traités de Lisbonne de je ne sais pas quelle année, ils ont décidé de rendre la majorité du peuple crétin. Okay. Donc après, tu vas me dire, oui, mais c'est une théorie de complot. Écoute, c'est l'auteur, c'est le livre. Pour ceux qui veulent, qui ont envie de connaître un peu plus, ils n'ont qu'à le lire et aller vérifier les sources. Vérifier les sources. Et après, vous jugez par vous-même si c'est un complot ou pas. Donc, après, voilà. Moi, je pense
Je mettrai le lien dans les descriptions, dans les notes, hein, pour ceux qui veulent aller regarder ça, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être curieux. Je suis le premier.
Ouais.
Je mettrai le
Donc, je pense qu'effectivement, il y a une volonté de créténiser un peu le peuple pour mieux le dominer, pour mieux le transformer en simple consommateur. Consommateur, c'est vraiment un lâcher la bombe atomique.
Moi, avec ces théories-là, j'ai toujours du mal à me dire, mais qui le gouvernement, les lobbies, est-ce qu'il y a un mec qui a décidé? Tu vois que c'est comment ça se passe?
Parce que Jérôme,
on a toujours l'impression qu'il y a une masse comme ça, quelqu'un qui truc. Et c'est, mais qui est cette personne qui veut crétiniser les gens? Est-ce qu'il y en a un qui est derrière, tu sais, un peu le méchant du film qui est en train de...
C'est Voldemort.
Ouais, c'est ça, on a du mal à personnifier, tu vois, on a l'impression que c'est un système qui est contre le truc. Et je me demande toujours qui décide ça, tu vois.
Ben après,
je lirai le livre.
Ouais, après, le mieux, oui, c'est d'aller essayer de voir un peu ce qu'ont à dire ces lanceurs d'alerte, parce qu'eux, ils te disent qui c'est. Eux, ils te disent, ils répondent à ta question. Maintenant, moi, ici, c'est un podcast de préparation physique et de biomécanique, donc je ne vais pas parler.
Bien sûr, bah, tu sais.
Mais les réponses existent. Après, voilà, à chacun d'aller lire, d'aller voir et d'essayer de mieux comprendre, de mieux cerner les choses.
Bon, ben, très bien. Ben, écoute, je laisserai ce bouquin-là. On va considérer ça que c'est la petite recommandation que tu nous donnes. Évidemment on a pas mal...
Excuse-moi, je suis en train de te couper, mais tu m'as demandé pourquoi si ce serait intéressant d'enseigner la nutrition à l'école. Je pense que c'est intéressant d'enseigner la cuisine à l'école, ouais. La cuisine à l'école et via la cuisine enseigner l'alimentation. Mais enseigner la cuisine, c'est pratique. Tu apprends comment te nourrir. Et en apprenant comment te nourrir, bah, tu apprends aussi comment bien te nourrir. Je pense que c'est important d'inclure des cours de cuisine, d'inclure des cours de philosophie, mais la vraie philosophie, pas l'histoire de la philosophie, la vraie philosophie, c'est-à-dire apprendre à réfléchir.
À penser, oui.
Apprendre à penser, à réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, on fait de la philo, bien sûr, au lycée, tout le monde, si tu as des élèves qui t'écoutent, ils font de la philo, mais ils font l'histoire de la philo. Ils apprennent pas à penser, ils font juste l'histoire de la philo. Donc ouais, deux matières, et puis bien sûr, l'éducation, une troisième matière qui aussi, je pense, doit être enseignée à l'école, c'est la finance, l'économie financière, comment fonctionne le système financier. Donc ça aussi, personne ne sait comment faire, et puis voilà, tu te retrouves dans un système où tu as une carte bancaire, tu as un compte en banque, tu prends un crédit, tu payes des intérêts, mais tu sais rien de rien, tu sais même pas comment ça fonctionne.
C'est ce que je voulais dire en termes de, tu sais, apprendre un budget, quand j'ai cité d'ailleurs, c'était ça sur le...
Tout à fait.
Donc
ouais, ces trois choses, je pense qu'ils sont intéressantes, il faut les inclure à l'école. Est-ce que c'est pour l'intérêt de le fameux Voldemort qui me contrôle d'avoir des gens plus intelligents? Je ne sais pas.
Bon, en tout cas, alors on est pris par le temps, donc je vais être obligé de te libérer. On commence à s'abuser. T'as encore un quart d'heure?
Ah, bah,
je vais te poser mes petites questions. Alors, tu vois, c'est toujours comme ça. On commence à s'amuser. Enfin, à partir de 1 heure, les sujets commencent à aller d'un endroit à l'autre. Toujours intéressant de parler de biomécanique. On va enrôler tous ceux qui sont dans l'obscurantisme. Et d'ailleurs, si parmi les auditeurs, il y en a certains qui connaissent la ministre de la Santé, faites-le remonter cet épisode de podcast pour savoir pourquoi il n'y a pas de cours de cuisine ou d'alimentation encore à l'école. Mais en vrai, j'aimerais bien savoir pourquoi ça a dû être envisagé, pourquoi ça n'a pas été mis en place. Est-ce que c'est compliqué à mettre en place? Parce qu'il y a toujours aussi, il y a entre l'idée et la mise en place. Bon, mais et puis tu sais, les systèmes, plus un système est compliqué, plus un système est verrouillé. Alors je voyais ça récemment avec les administrations ici, ils sont encore toujours certains dans la santé, je devais faire transférer des papiers d'une clinique à une autre, et puis ils sont par fax. Et je leur dis d'accord, donc par fax, vous pouvez même l'envoyer par mail. Il me dit non, on n'envoie plus par mail. Je dis, on est en 2022, vous faites des fax. Je veux dire, c'est normal. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve une pharmacie à côté ou quelqu'un qui a un fax pour que vous me transférez le papier. Et alors, c'est des systèmes qui sont compliqués. Quand on veut les changer, ça prend du temps. Et alors, j'imagine que ça prendrait, avant qu'il y ait des cours de cuisine à l'école, qui soit bien intégré, qui soit bien fait, ça prendrait quoi, 5, 10, 15 ans, je sais pas.
Je ne sais même pas si ça va exister. Hein. Ça dépend uniquement de ceux qui décident. Donc,
je sais pas. Je sais pas qui est la ministre de la Santé actuellement là, parce que.
Je sais plus.
Bon.
Dans le nouveau gouvernement là, je ne sais pas. Je t'avoue que.
Oui, non, bref. Ouais. Moi encore moins. Faites des tweets et faites remonter, ça marche beaucoup avec les tweets. Bon, Lou, est-ce que t'as un autre bouquin? Tiens, comme t'as un petit 10 minutes supplémentaires, t'as un autre bouquin recommandé, tu vois? Peut-être sur la prépa, sur ceux qui veulent aller un peu plus loin, sur la compréhension des mouvements, l'approche un peu plus fonctionnelle, tu vois? Moins bodybuilding, hein, j'en parle beaucoup, mais un peu plus fonctionnelle, comme tu l'as détaillé aujourd'hui.
Alors, si tu veux, ouais, moi, les bouquins que j'aime bien, comme tu l'as peut-être bien compris, c'est que c'est les bouquins qui sont à la base écrits en anglais, les bouquins anglophones, littérature anglo-saxonne. Tu m'entends ?
Oui.
Alors, attends, j'essaie de retrouver les titres parce que le titre français. Alors oui. Donc du coup, pour la préparation physique en général. Pour la préparation physique en général, il y a Fort Trainer qui vient de sortir ils ont appelé ça l'encyclopédie de la préparation physique, donc c'est un livre traduit de l'anglais.
J'ai vu, ouais.
Donc ça, c'est une bonne référence. C'est un livre qui est très complet, qui va parler vraiment de la préparation physique en général, hein, donc pas que du bodybuilding ou de la prise de force ou de la prise de masse. Hein. Tu as l'endurance, l'explosivité, le travail de mobilité, tu as un peu de mécanique dedans, tu as un peu de biomécanique dedans. Donc c'est intéressant pour quelqu'un, pour un préparateur physique, pour un coach qui a envie d'avoir une petite référence dans sa bibliothèque qu'il peut aller consulter quand il a un doute ou quand il faut qu'il fasse qu'il construise une séance autour de qualité physique qu'il n'a pas peut-être l'habitude de travailler. Ça serait intéressant d'avoir ce bouquin. Il est très bien fait. Il est très bien traduit et il est bien fait.
Ok.
Concernant la musculation, il y a le livre de Brad Schoenfeld, Hypertrophy, qui est aussi traduit en français et qui existe chez les éditions Full Trainer. Et le livre, il s'appelle Hypertrophy, tout simplement. Et donc là, franchement, pour tous les gens qui s'intéressent à la musculation, allez lire ce livre. Je veux dire, là, vous avez la réponse à tout. Vous savez s'il faut faire des exercices polyarticulaires, des exercices d'isolation, quand est-ce qu'il faut incorporer l'un, quand est-ce qu'il faut incorporer l'autre, quelle est la fourchette de répétition optimale par exercice, quel est le nombre d'exercices optimal par séance, quel tempo il faut faire les exercices, quel est le temps de repos qu'il faut prendre entre les séries, combien de séances par semaine il faut faire, quel programme de musculation. Bref, il y a plein de choses autour du travail de l'hypertrophie et du bodybuilding qui sont très intéressantes dans ce bouquin.
C'est marrant, tu es peut-être l'un des rares qui n'a pas cité, je ne sais pas si c'était voulu ou pas, qui n'a pas cité Michael Gundy et les frères Xavier Delavier sur la méthode Delavier qui est...
Les méthodes
est-ce qu'il y a clash?
Les méthodes Delavier, c'est un poisson. D'accord. Tu te rappelles du poisson et du pêcheur? Donc soit je te donne un poisson, soit je t'apprends à pêcher. Ok. Les méthodes Delavier, c'est un poisson. Ils sont très bien. Il y a un programme, hop, tu les fais, c'est très bien. Ils te donnent des informations d'ordre biomécanique pour que tu puisses un peu comprendre ce que tu fais. Ils sont bien. Ils sont pas, c'est pas des mauvais livres. Ils sont bien. Le livre de Delavier que je préfère le plus, c'est bien sûr le guide des mouvements. C'est comme ça qu'il s'appelle ? Oh là là, quelle honte.
Guide des mouvements de musculation, ouais, hein, c'est un des guides.
Tout à fait. Donc lui, c'est sûr que je pense que n'importe quel préparateur physique, n'importe quel coach qui s'intéresse un peu à la musculation, il a eu ce livre entre ses mains, et moi le premier. Il est excellent ce livre, il est vraiment très bien, mais il est très basique. D'accord ? Dès qu'on veut rentrer un peu plus dans les détails, c'est très vite insuffisant. Voilà. Après, c'est des bons livres, bien sûr. Mais voilà, c'est pour un public qui est peut-être un peu plus novice, qui débute peut-être un peu plus dans le domaine. Les deux autres livres.
Toi quand t'as commencé.
Ouais.
Ouais. Non oui. Toi, quand t'as commencé.
Quand j'ai commencé.
On se télescope. On se télescope.
Quand j'ai commencé, dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais, donc quand t'as commencé, quand tu t'es quand t'es parti en STAPS, que t'as fait une reconversion, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'était quoi? Il y a 10 et combien d'années?
Moi, j'ai repris les études en STAPS, c'était en 2007, il me semble.
Une quinzaine d'années, si je ne me trompe pas, trois, c'est ouais, c'est ça. C'est quoi le meilleur conseil que tu aurais aimé entendre, tu vois, à cette époque-là, avec tout le bagage culturel informatif que tu as aujourd'hui? Et quand je dis culturel, c'est y compris un peu les théories du complot.
Quel est le meilleur avis que j'aurais pu
Ouais, le truc qui t'aurait le plus servi, peut-être.
le truc qui m'aurait le plus servi, c'était de partir à l'étranger et d'aller aux States. C'est ça ce qui m'aurait le plus servi.
Et
Donc
tu l'as fait.
si
Tu l'as pas fait.
non, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, malheureusement. J'essaie, je compte le faire, j'essaie de trouver du temps, mais bon, là, avec la vie active, quand tu rentres dans la vie active et quand tu commences à avoir des responsabilités, ça commence à être compliqué. Mais ouais, j'aurais beaucoup bénéficié d'un séjour exhaustif aux States, parce que j'aurais énormément, énormément appris, beaucoup plus vite, peut-être pas beaucoup plus, mais beaucoup plus vite que ce que j'ai appris pendant mon cursus.
Et en plus, tu m'as dit que tu étais un peu nomade digital, donc même avec les complications, tu essayes de retrouver cette liberté de bouger.
Oui.
Enfin, tu as été nomade digital, je sais pas si tu l'es toujours.
Si, je le suis toujours. J'essaie de bouger après. Je reste en France, hein, je pars pas à l'étranger, mais j'essaie de bouger en France. D'accord, j'essaie de bouger en France dans le but de découvrir ce beau pays, tout simplement. C'est un pays qui est immense, et pour le découvrir, il faut bouger. Il faut bouger, il faut aller passer du temps par-ci, par-là. Avec ma femme, on a la chance de pouvoir bouger. Donc moi, j'ai une activité qui est essentiellement en ligne. Donc je peux travailler n'importe où, il me suffit juste d'une connexion Internet. Ma femme, elle est médecin généraliste, donc elle peut faire des remplacements un peu partout, là où elle veut. Donc on a la chance d'avoir cet avantage. Donc voilà, on en
Liberté, ouais.
profite. Tout à fait, on en profite et on essaie de bouger. Effectivement. Donc là, pour l'instant, là, tu vois, je suis à Ajaccio, en Corse.
OK.
Je reste jusqu'en septembre. Et après, en octobre, on revient là où on était avant de venir ici. Donc là où on était. En mai, juste avant de venir à Ajaccio, c'est-à-dire dans l'Ain, on était dans l'Ain, donc à la frontière suisse. On s'est beaucoup plu là-bas, et donc on a envie de revenir pour continuer à profiter de la montagne et de cette belle campagne. Voilà.
Bon, top. C'est vrai qu'un sujet que je m'étais mis de côté, qu'on n'a pas nécessairement abordé, il y a des choix à faire. Je vais te libérer. C'était super. Écoute, voilà, moi, c'est toujours à partir de 45, 50 minutes autour de ça que. Alors, je dis pas qu'avant je m'amuse pas, mais tu sais que ça commence à, on commence à t'accaler sur des choses un petit peu différentes, à passer un peu le. Tu sais, il y a toujours la première demi-heure. Quand j'enregistre les podcasts, où très souvent, c'est un peu formel, et puis plus ça va, plus ah ça y est, on parle d'autre chose, et puis on s'amuse. C'est pour ça que j'aime bien faire des épisodes un peu longs. D'ailleurs, c'est marrant parce que récemment j'ai rencontré des gens, et puis quand j'ai dit que j'avais des épisodes, que je faisais un podcast, ils m'ont dit ah super, j'irai écouter. Je lui dis attends, oui, va écouter, va t'amuser, il y a plein de trucs, tu vas trouver ça génial. Je lui recommande des épisodes. Puis je lui dis par contre, mes épisodes sont longs. Hein, donc je préviens. Ok, oh oui, mais j'ai le temps, Jean, c'est quoi? C'est 45 minutes, 1 heure? Non, non, sont longs, sont
C'est
très longs.
le double.
Et c'est vrai qu'on va rarement, en dessous de 2 heures. Mais je pense que c'est ce qui fait un peu la force aussi de ce podcast et ce qui fait que les gens aiment bien et que moi j'aime beaucoup. Bon, en tout cas, Alex, je te remercie d'être venu sur le podcast. Ce qu'on va faire, c'est que tu as des engagements, donc je vais pas te garder plus longtemps que ça. Si vous avez envie d'entendre Alex de Olympfit, Alexandre, une seconde fois pour des sujets un petit peu plus complémentaires de ce qu'on a dit aujourd'hui, associés et puis au-delà, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vous lui envoyez un petit message. Je vous remercie d'être passé sur le podcast. Il y en a peut-être, tu vas peut-être recevoir des messages
Avec
spontanés
plaisir.
sur Instagram. Alors, t'es pas trop sur Instagram, mais
Je suis pas trop sur
d'ailleurs,
Instagram.
tiens, je vais quand même laisser ton Instagram pour ceux qui veulent aller le
Oui.
découvrir. Est-ce
C'est
que tu as
Olympfit
un moyen
37.
pour.
Olympfit
T'as d'autres
37.
moyens pour tout.
D'autres moyens. Il y a Instagram, il y a ma chaîne YouTube, donc Olympfit. Il y a mon site web, olympfit.fr. Sur mon site web, bien sûr, il y a le lien pour tous mes réseaux. Donc, après Instagram et Facebook, c'est Olympfit37, d'accord? C'est très simple. Et YouTube, c'est Olympfit. Donc, c'est très simple. Vous tapez Olympfit Alex sur Google, vous allez trouver, vous allez me trouver. Il n'y a pas de souci. Vous allez
bon, de toute façon.
Et puis, ceux si, qui veulent... comme il a dit Jérôme, si vous avez envie, si vous avez des sujets que vous avez envie que j'aborde, bah, dites-le-moi. Dites-le-moi et peut-être qu'on pourra recaler un deuxième podcast pour parler de ces sujets-là qui seront remontés. On verra bien. Exactement. Qu'est-ce qui vous intéresse.
Bon, en tout cas, abonnez-vous. YouTube, tout le monde l'a vu, les vidéos sont reparties en entier sur YouTube en trombe. je les ai arrêtées et puis je les ai repris. Et puis bon, je vais laisser comme ça un petit moment. Abonnez-vous donc sur YouTube, sur les applications de podcast. C'est 8h le lundi matin, un nouvel épisode. Voilà, hein, des fois muscu, des fois biomécanique, des fois un peu moins, des fois fort spécial aussi. Je commence à avoir différentes catégories comme ça d'invités, de sujets. J'aime bien, ça permet aussi de diversifier, d'aller voir dans d'autres domaines. Et très souvent, on me dit, tiens, j'écoutais uniquement tes podcasts muscu, et puis j'en ai écouté, ça m'intéressait pas trop, mais bon, j'ai été voir un podcast sur quelqu'un qui a fait les efforts spéciales, et j'ai trouvé ça génial, et puis j'ai adoré découvrir quelque chose qui était complètement en dehors de ce que je voulais au départ. Donc ça me fait plaisir. Faites-le allez jeter une oreille sur des épisodes qui vous semblent un peu à côté de ce que vous aimez, et puis vous allez forcément découvrir des choses intéressantes, je l'espère. Et puis inscrivez-vous à Lettres Biomécaniques. J'ai changé la page récemment, c'est la newsletter du podcast, sur une des pages écrit tout ce qui n'est pas dit dans le podcast, au-delà, c'est la petite newsletter une fois par mois, et il y a des choses intéressantes, c'est mes recommandations, des petits bonus, des surprises, et puis voilà, des choses qui vont arriver, qui vont être sympas aussi. Merci à tous, on se dit à la semaine prochaine. Reste avec moi 30 secondes, quitte pas Alex, on va se dire au revoir.
Je remercie aussi ton public. J'espère que ce podcast vous a été utile et que vous l'avez trouvé intéressant. Et je vous dis peut-être à bientôt.
Voilà, si vous êtes arrivé jusque-là et que vous avez trouvé ça utile et intéressant, faites une petite capture sur Instagram, mettez-la en story et puis identifiez-nous deux, et comme ça on repartage, et comme ça on fait découvrir cet épisode pour ceux qui seront intéressés.
Parfait.
À la semaine prochaine. Ciao.
Salut. Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux. Merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa. C'est ce qui me permet de mieux ressortir dans les classements. Laissez-moi votre email sur biomecaniquepodcast.com/lettre et je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que la lettre biomécanique une fois par mois où je vous partage mes meilleurs conseils et recommandations. Vous avez écouté le podcast Biomécanique, je suis Jérôme Cazerolle et je vous dis à très bientôt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.